R22, Radio Tout le Monde.
L'autre émission.
Jean-Philippe à la réalisation. L'autre émission, donc l'émission L'autre musique sur R22, la radio Tout le Monde, en direct de l'espace Chiasma, après notre première émission donc, qui s'appelait Capture, les questions du public.
Et il y a une question
dans le public.
Bonsoir. En fait, j'aurais une question qui s'adresse plutôt à Christian Lallier. C'est une question plutôt d'ordre didactique. En fait, je me posais la question de savoir s'il y avait une différence à faire, quelle serait la différence entre l'anthropologie filmée et la sociologie filmique. Et la deuxième question qui s'y rattache, ce serait est-ce que votre laboratoire se rattache à une forme universitaire ou, je sais pas, formelle de recherche ?
D'accord, merci. Il n'y a pas de distinction, je dirais, formelle et dogmatique entre l'anthropologie filmée et la sociologie audiovisuelle ou filmique. Moi-même, j'ai fait tout mon travail de recherche sur la base des travaux de Erving Goffman. Donc, on ne peut pas, je dirais, statuer sur des différences formelles qui n'amèneraient qu'à des positions arbitraires et dogmatiques. Bon. Après, je pense qu'il y a des différences de discipline. Sinon, ça fait longtemps qu'elles auraient fusionné ou il y en aura une des deux qui n'existerait peut-être plus. Non. Voilà, donc je crois qu'elles ont chacune leur intérêt, leur démarche. Et effectivement, je crois que pour avoir d'ailleurs enseigné l'anthropologie filmée à des sociologues, notamment à l'ENS, c'est clair que la question de la perte de repères et de... perdre ses repères effectivement sur le terrain et de pouvoir construire la compréhension de la situation par, je dirais, une immersion, par une expérience d'altérité proche à l'anthropologie. Et de cela, il faut savoir s'en débrouiller avec une caméra. Et c'est pas du tout évident. Et ça, je pense, et c'est ce sur quoi d'ailleurs en particulier j'ai travaillé, c'est-à-dire que, juste pour compléter, des étudiants qui de plus en plus aujourd'hui d'ailleurs veulent partir avec une caméra sur le terrain en anthropologie peuvent se retrouver dans des situations difficiles, délicates, parce que filmer l'autre engage un rapport de réflexivité, des rapports de complexes dans la relation à l'autre, à laquelle ils ne sont pas préparés, et que généralement, quand on est dans un travail de terrain par l'écrit, en anthropologie, il y a, je dirais, un certain nombre de protocoles qui font que ça protège un petit peu l'ethnographe ou l'observateur. Mais quand on est avec une caméra, ça expose particulièrement. Et ça expose particulièrement avec l'anthropologie, parce qu'il y a cette expérience d'altérité qui n'est pas fondamentalement liée à la sociologie, qui va travailler plutôt sur un certain nombre de catégories et qui va pouvoir, que ces catégories vont être éprouvées dans leur robustesse en allant sur le terrain. Et c'est une autre approche. Là, la caméra peut être plutôt, je dirais, illustrative ou accompagnatrice d'une démonstration. Voilà. Mais j'y vais avec beaucoup de mesures parce que, encore une fois, moi, j'ai travaillé... Voilà, genre Zimmel, pour, voilà, tout ça, ce sont a priori des sociologues. Et il y a des sociologues voilà, comme Boltanski qui ont une approche extrêmement proche de l'anthropologie. Donc il y a la porosité, mais pour éviter justement la confusion, c'est bien de pouvoir distinguer les catégories et de voir comment elles se complètent les unes aux autres. Voilà. Sinon, le laboratoire d'anthropologie filmée, le LABAF, est un laboratoire indépendant. Totalement indépendant. C'est même d'ailleurs juridiquement une structure de société de production audiovisuelle. Mais pour ma part, je suis rattaché moi-même donc à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, qui est donc une UMR HESS, donc CNRS. Et le LABAF, on est actuellement en train d'envisager des collaborations, de partenariats avec des universités sous la forme des AUR, des écoles universitaires de recherche qui sont en train de se mettre en place sous la forme d'économie mixte. Et j'en suis bien ravi parce que ça me permettrait, moi qui ne suis pas en poste, de pouvoir créer un partenariat public-privé. Voilà. Mais c'est à venir.
Merci. Je vous remercie.
Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public ?
N'hésitez pas. Si, si, c'est... bien sûr. Si. Nous sommes toujours en direct sur R22.
C'est une fake news.
Sinon, on peut danser, je sais pas.
Oui, c'est pas très radiophonique.
Ah. Moi, j'avais l'impression qu'il était aussi beaucoup de questions de musique électroacoustique, justement, dans la prise de son, dans la position du corps par la prise de son. Je ne sais pas si vous avez quelque chose dans votre travail, je sais pas, par rapport à l'anthropologie, ou est-ce que c'est un concours de circonstances ou des approches qui se recroisent, ou par rapport peut-être à ton travail.
Emmanuel,
je ne sais pas.
Pas forcément par rapport à mon travail, mais le père de la musique concrète et donc électroacoustique, c'est quand même Pierre Schaeffer qui a commencé par enregistrer des sons de tribus, et donc un peu un travail d'anthropologie sonore, et pour ma part c'est un de mes inspirateurs, et j'imagine qu'on le retrouve un petit peu, c'est un petit peu lui qui a ouvert le champ de la création sonore et de l'anthropologie. Je ne sais pas si... Tiens. Ok.
Il y a une autre question dans le public.
Oui, bonsoir. Moi j'aurais aimé bien savoir comment ça fonctionne un peu, ce qui faisait de la musique tout à l'heure.
Anne-Flore, je crois que la question t'est destinée.
Bonsoir.
Comment transformer un scotch en musique ?
Comment transformer un scotch en musique ? En l'écoutant d'abord. Pour moi, c'est un matériau avec lequel je travaille depuis quelques années maintenant. C'est vous qui avez posé la question. En fait, j'utilise le scotch pour transposer la ligne que je dessine sur papier dans l'espace, donc dans la ville ou dans un espace, une pièce. Et je l'ai beaucoup pratiqué dans des grands espaces. Récemment, j'ai fait une exposition, c'était à Taïwan, et j'ai réalisé un collage de 3 km. J'ai fait pire, j'ai fait un collage de 5 km de scotch à Bruxelles. Et évidemment, je suis quand je fais ce type d'intervention, j'entends le scotch qui se déroule et je me fais à sa musique, et j'aime prêter attention à tous les gestes et à tous les petits bruits qui se produisent quand je m'en sers. Donc il y a le moment où je le découpe à la main, puisque je me sers de scotch gaffeur textile, donc c'est découpable à la main facilement, et puis le moment où je le déroule. Alors en général, comme c'est des grandes distances, j'essaye d'aller très vite, parfois je me retrouve à courir avec le scotch qui se déroule dans mes mains. Et cette musique là moi, évidemment, ça me parle, ça me plaît. C'est pas la première fois que je fais attention à la musique des instruments que j'utilise, puisque j'avais déjà fait des pièces sonores à partir d'enregistrements de stylo-bille. Je fais des propositions d'accompagnement, donc il y avait le graphisme, un graphisme sonore qui va rencontrer un graphisme visuel. On avait une pièce, mais on l'a pas jouée, on était pris par le temps.
Mais alors on peut l'écouter.
Si ça vous intéresse, le public. Et par rapport à la musique, en fait, pour dire, moi je me situe, enfin je me définis pas du tout comme quelqu'un qui va faire de la musique. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'écouter la musique du matériau. Donc, qui pour moi va en être une, mais et après je l'agence en la montant, en me posant des questions de la narration qui a été évoquée tout à l'heure par rapport aux musiques ou à la prise de son d'une action. Comment ensuite on récupère ce son et on l'accompagne, enfin on le fait accompagner une narration en image. Donc voilà, moi je me construis tout un univers sonore et de bruit, à partir de bruit, et j'aime bien faire correspondre tous les sens, donc à la fois la vue, l'ouïe, et pour moi tout ça se rencontre dans le corps et parfois même peut provoquer des chorégraphies. Enfin, le fait qu'on écoute une musique en marchant ou en regardant quelque chose, on va avoir envie de modifier un peu sa marche ou son évolution dans l'espace au contact de toutes ces stimulations, quoi, sonores et visuelles. Et bah oui, moi je.
On peut l'écouter, si c'est Dépêche-toi.
Ça s'appelle Dépêche-toi, et en fait, parce que quand je l'ai monté, donc c'est vraiment des prises de son de stylo que j'ai ensuite transformées à l'aide d'un logiciel de montage sonore qui s'appelle Pro Tools, et ça m'a permis de donner une teinte comme ça très accélérée en fait au mouvement d'écriture, et ça m'a évoqué cette phrase qui dit Dépêche-toi. Elle est jouée en accéléré, c'est étrange. Normalement, bon, c'est beaucoup plus.
Maintenant, on est dans la phase B, donc on va vous montrer tout ce qui se cache derrière.
Ça, c'est une réinterprétation de ma pièce.
Nous voici tout nus, en direct.
Dépêche-toi. Ouais.
C'est encore plus Dépêche-toi.
Fred, Dépêche-toi.
Il y a eu un petit bug pendant la performance tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'il y a un câble qui a bougé et il a mal bougé. Du coup, il m'a déplacé des. Normalement. Toujours pas.
Voilà, merci de l'avoir entendu ici ce soir.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public ? Ouais.
Merci. Donc, c'est pour Emmanuel, ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à vos projets sur la Syrie ? Donc, c'est des documentaires filmés ? Ou c'est juste sonore ?
Vous en dire plus, en deux minutes, ça va être très compliqué de oui, synthétiser. Parce qu'en fait, c'est à la fois un roman. Ça commence par un roman, en fait. De moi, que je suis en train d'écrire. Genre, je suis dans la troisième écriture du roman, qui est également lu chapitre après chapitre en performance, plutôt dans des galeries, mis en son avec mon instrument qui s'appelle le Molf. Et pour créer un des deux personnages, qui est Souleymane, qui est un Syrien, c'est une histoire d'amour entre une Algérienne et un Syrien, qui est une histoire vraie, en fait, la jeune femme algérienne m'a raconté via Facebook pendant plusieurs mois. Et pour construire le personnage de Souleymane, qui est un journaliste recherché par Daesh, Assad, etc., je devais le fictionnaliser l'histoire. Et donc j'ai interviewé des Syriens intellectuels et petit à petit j'ai créé d'autres choses. Et donc il y a aussi en fait je crois que j'ai une vie là de projets en fait, qui se sont construits depuis le début. Mais je ne sais pas si je réponds bien à la question.
Ça va
ouais. Je suis désolée, c'est très court, une minute pour résumer.
Du coup, c'est pour faire quoi, un documentaire
Il y a un roman, ouais. A priori une fiction radio, des performances artistiques, une installation et deux documentaires vidéo et un documentaire audio qui va se jouer sur une radio suisse dans l'émission Le Labo, mais qui est en cours de production. Voilà. Et comme, peut-être que dans une semaine j'aurai encore un autre projet en rapport, parce que c'est assez étonnant. C'est comme si depuis que j'avais commencé à travailler sur ce sujet, je suis comme un aimant à personnages qui m'amène de nouvelles histoires et où j'ai très envie d'en parler. Voilà.
Merci.
De rien.
Bon, on pourra poursuivre tous ensemble la discussion. Autour des du repas qui est organisé par Kiasma. Peut-être profiter juste de ces dernières paroles pour demander à chacun une actualité à venir. Christian Lallier, vous avez un travail en cours sur le montage, justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure.
Oui, effectivement, il y a une série documentaire qui va bientôt être accessible, qui s'appelle Performer 10, la fabrique de l'éphémère. Où nous avons suivi avec Mélodie, des performeurs qui sont intervenus au Musée des Arts et Métiers. Et c'est la fabrique, le travail. C'est la performance comme travail, comme fabrication d'une performance. Et on a suivi tous ces performeurs, dont Frédéric Maltevet, qui a performé avec son équipe donc, au musée. Donc ce sera bientôt...
avec Célio Paillard et avec Mathieu Krimer.
Exactement. Et voilà, et c'est la prochaine anthropologie filmée du LABAF. Voilà.
Et on pourra la mettre en lien du coup sur le site
oui.
et de l'émission, l'autre émission sur r22.fr. Et Anne-Flore.
Là, je prépare une installation à Rennes sur la façade du musée des Beaux-Arts. Et j'ai également une ou deux programmations à Taïwan, normalement, à nouveau.
Combien de kilomètres ?
Alors là, ce sera certainement des élastiques. Et pour l'autre, c'est des projets qui sont en train de... Mais il y a des kilomètres d'élastiques aussi, oui. Et peut-être du scotch, enfin en train de se faire. Et puis, je collabore aussi avec le Louvre pour des ateliers de médiation artistique. Et une expo également à venir en mars avec Frédéric Matové autour du thème « La partition ».
Et Mélodie qui ne travaille pas avec Frédéric Matové, par contre.
Qui n'a plus de micro.
Moi, là, je travaille en ce moment à l'écriture de nouvelles. Ça, c'est un des travaux sur lesquels je suis engagée. Et puis aussi, je vais commencer le montage, là, prochainement, de mon second film documentaire, alors qui s'appelle « La maison et la route avec le frère mort de ma mère ». Et voilà, je ne sais pas ce que sera ce film, il faut que je le monte.
Bah, merci en tout cas à vous tous et à vous toutes d'avoir...
Merci.
Assisté. Je ne sais pas si Emmanuel veut rajouter
merci.
Quelque chose. Et on se retrouve, je l'espère, on l'espère, j'espère tous, pour un prochain numéro de l'autre émission. Et en attendant, vous pourrez écouter évidemment le podcast sur r22.fr, la radio du Centre culturel et artistique de Kiasma au Lila. Merci à tous.
Merci.
Merci. Bye.